aux armes, ça vient directement de la France. Et en effet, en France, ça continue à brasser à cause des grèves. Ça va être d'ailleurs un des sujets d'aujourd'hui lors de l'émission de Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit, en votre compagnie, aimable compagnie, François au micro. Et je suis en compagnie de...
Jenny.
Et Stéphane.
Et Farouco.
Et puis, c'est ça, aujourd'hui, on va avoir essentiellement deux, trois sujets. Là. On va se concentrer sur le RLQ, tous les médias populistes, tous les médias commerciaux en ont parlé. Mais voie de fait aussi, on a des choses à dire là-dessus, surtout qu'on était assez présents lors du congrès, lors du lancement du réseau Liberté Québec. On va parler aussi des grèves en France. On va avoir une longue entrevue avec quelqu'un français, justement, avec Nicolas et ce Français-là. Ils vont nous parler en détail de ce qui se passe là-bas en France.
Un camarade d'Alternative Libertaire, je pense, c'est ça?
C'est ça.
Yep.
Et puis, on va avoir aussi, évidemment, l'actualité internationale.
Je vais parler de la Confédération générale du travail d'Espagne qui condamne l'assassinat de Mariano Ferreira par des armes armées de la bureaucratie syndicale argentine.
Super. Donc, justement, pour nous mettre en bouche peut-être un peu ce qui s'est passé au Réseau Liberté Québec, peut-être qu'on pourrait commencer tout de suite avec une espèce de petit reportage. C'est tout simplement une série de Vox Pop, directement de l'événement, tiré de l'événement à l'hôtel des gouverneurs. Le Réseau Liberté Québec dans vos oreilles. Alors, c'est le lancement du Réseau Liberté Québec. Grand jour pour la droite décomplexée qui sort du placard. L'événement annoncé complet. Les places se sont vendues comme des petits pains chauds, ce qui montre un engouement certain pour le mouvement. Le Réseau Liberté Québec, c'est pas un nouveau parti. C'est un mouvement soi-disant grassroots, selon les mots de la cofondatrice Joanne Marcotte. Bonjour Madame Marcotte.
Bonjour.
Donc Réseau Liberté Québec, pourquoi avoir fondé ça? Parce que, bon, vous êtes un mouvement de droite, peut-être on pourrait appeler ça aussi un think tank de droite. On a l'Institut économique de Montréal qui est aussi un think tank de droite. Les idées de droite sont quand même assez répandues dans l'espace public, par la télé, la télévision, aussi les journaux, la radio. Pourquoi exactement le Réseau Liberté Québec?
Bien, la distinction entre ce que vous venez de nommer là, les think tanks, etc., les journaux, les médias, c'est que le mouvement Réseau Liberté Québec, c'est un mouvement de citoyens. Donc, ça regroupe tout ça. Ça regroupe des citoyens, des blogueurs, des think tanks, des politiciens, des ex-politiciens. Fédéralistes, souverainistes, c'est pas important. Anglophones, francophones, c'est pas important. Ce qui compte, c'est vraiment de se regrouper pour se réseauter, se connaître, puis vendre les idées de liberté individuelle et de liberté économique.
Normalement, un mouvement grassroots, c'est spontané, communautaire, local. Il se tient loin des pouvoirs politiques traditionnels. Mais pourtant, le RLQ laisse toute la place à de nombreux politiciens. Gérard Deltel, Éric Kerr, Maxime Bernier, Jacques Brassard et j'en passe. C'est eux que vous entendez toujours parler dans les médias. Mais ces gens qui adhèrent, ces gens qui forment la base du mouvement, qui sont-ils finalement?
Êtes-vous de droite?
Oui.
Est-ce que vous êtes fier d'être de droite?
Pourquoi est-ce que je ne le serais pas?
C'est pas une question comme ça. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui au Réseau Liberté Québec?
Parce que les conférenciers m'intéressent.
Qui en particulier?
Éric Duhem.
Vous l'écoutez souvent à la radio?
Régulièrement. Je le lis dans les journaux aussi.
Qu'est-ce que vous aimez chez lui?
Qui dénonce des choses que les autres n'osent pas dénoncer.
Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis représentant.
Est-ce que vous avez voté aux dernières élections provinciales ou fédérales?
Non.
Donc, vous êtes parmi les déçus des gens qui ne trouvaient pas de parti, le Parti conservateur ou la DQ, vous ne rejoignez pas?
Effectivement, je suis orphelin politique. À la recherche d'un nouveau parti.
Est-ce que vous aimeriez qu'ils fondent un nouveau parti?
Ben oui, s'il y en avait un qui représentait plus nos valeurs, nos idées et une réelle réingénierie de l'État, je serais très heureux de les supporter, mais actuellement, on n'en a pas, donc...
Si on voudrait essayer de décrire un peu l'assistance du lancement du Réseau Liberté Québec, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de gens en cravate, des jeunes hommes surtout, quoiqu'il y a quand même une bonne présence des femmes aussi, beaucoup de têtes grises aussi, mais vraiment, je dirais la moyenne d'âge doit être dans la trentaine environ, trentaine, quarantaine. On sent beaucoup de fébrilité, beaucoup d'émotion. Êtes-vous de droite?
Si je suis de droite, oui. Absolument.
Êtes-vous fier de l'être?
Tout à fait. Ben, je lis quotidiennement le Journal de Québec et Le Soleil. La TV que j'écoute, c'est les chaînes de nouvelles, LCN et RDI. Alors, je tu es en mesure de comparer. Quand on parle de Radio-Canada, on sait que ça ressemble. Les artisans de Radio-Canada, ils ne seraient pas ici aujourd'hui. Là.
Est-ce que vous trouvez que vous êtes bien informé?
Si je suis bien informé, ouais. Pas vraiment. Puis cet après-midi, assister à l'atelier qui porte sur les climato-sceptiques. Je pense pas que dans les médias, ces gens-là sont couverts. C'est un côté de la médaille qu'on a.
Vous avez ça peut-être avoir un média plus de droite, là?
Ben, je veux pas un média de droite. J'aimerais que dans tous les médias, quand on traite d'une question, on présente les deux côtés de la médaille, ce qui n'est pas le cas dans le moment.
Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Moi, je suis consultant en gestion des ressources humaines. Pour la première fois de ma vie, ça veut dire que depuis que j'ai droit de vote, là, ça fait au-dessus de 40 ans. Aux dernières élections, je n'ai pas voté.
Oh.
Provincial.
OK. Puis fédéral, qu'est-ce que vous avez voté?
J'ai voté le plan Parti conservateur.
Salut.
Allô?
Est-ce que vous êtes de droite?
De droite, oui.
Est-ce que vous êtes fier d'être de droite?
Ben oui, pourquoi pas?
Et pourquoi est-ce que vous êtes ici au Réseau Liberté Québec?
Ben moi, je suis ici parce que tous les panélistes, dans le fond, représentent vraiment mes idées. Puis, dans le fond, je viens ici aussi pour moi et pour mes enfants. Là. Je trouve ça important que le Québec fasse des changements.
Et c'est qui, justement, vos panélistes préférés?
Ah, ben là, j'aime bien Jeff Fillion. Ça fait longtemps que je le suis. J'aime bien Joanne Marcotte aussi.
Vous avez vu son documentaire?
Oui, je l'ai vu.
C'est ça. Est-ce que c'est ça qui vous a introduit, dans le fond, un peu à la droite au Québec? Ou?
Ça fait longtemps, là, en suivant Jeff Fillion puis ses discours-là, ben dans le fond, tranquillement, pas vite, on s'informe puis on apprend à avoir un autre point de vue, dans le fond. Moi, je travaille, j'ai une entreprise. Puis, je trouve que c'est important que le gouvernement réduise sa taille parce que là, on est trop endetté. Faut vraiment faire quelque chose parce que sinon, nos enfants vont vivre avec le fardeau fiscal qui n'a pas d'allure. Fait que dans le fond, moi, je trouve qu'il faut vraiment là, agir et puis le plus vite possible. Il faut que nos gouvernements aient la volonté de faire des changements. Je pense que le choix pourrait être meilleur. Par contre, je vais toujours voter. Jamais je vais rester chez nous. Là. Je vais toujours aller voter quand même.
Ce qui différencie peut-être le Réseau Liberté Québec de d'autres mouvements de droite comme le Tea Party, par exemple, c'est l'absence de groupes religieux. Ça n'empêche pas certains des panélistes d'être des catholiques autoproclamés et fiers de l'être.
Oui, on est de droite.
Est-ce que vous êtes fiers d'être de droite?
Tendance
de droite.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous êtes ici au Réseau Liberté Québec?
Bien, on a pu voir leur programme, en quoi ça consiste, c'est quoi leurs idées si ça rejoint les nôtres. Puis, ça rejoint pas mal les nôtres. Oui.
Puis, vous, est-ce que vous êtes orpheline de partis politiques ou est-ce que vous votez à chaque fois?
Je vote à chaque fois.
Oui.
J'essaye de voter pour le meilleur. Des fois, on est déçus. Mais vous dire aujourd'hui, je pourrais voter, je ne saurais vraiment pas pour qui.
OK. Et justement, peut-être Force Québec, là, François Legault qui voulait parler, vous, est-ce que ça vous interpelle?
On est pas mal tannés, toujours les mêmes qui reviennent, les ex de ci, les ex de telle partie. Là, ça n'a rien donné jusqu'à date. Qu'est-ce que ça donnerait après?
Puis vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Moi, je suis. Je fais d'atelier livre, la comptabilité. On se rend compte que le Québec, il s'en va vers son déclin, puis à un moment donné, pour nos jeunes, il faut faire quelque chose. Ça peut pas continuer comme ça.
Salut, est-ce que tu es de droite?
Oui.
Est-ce que tu es fier d'être de droite?
Oui, tout à fait.
Pourquoi?
Parce que je suis pour les responsabilités individuelles, la liberté de choix. Je pense que ce sont des valeurs fondamentales qui doivent être respectées.
Est-ce que tu as déjà milité dans une organisation politique avant?
Non, pas du tout.
Et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis étudiant à l'université.
Là, je pense à ça. Toi, tu étais étudiant. Éric Kerr, bon, il a déjà mentionné que lui, son objectif, c'est de faire monter les tarifs scolaires. Toi, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que tu penses de ça?
Je pense que les universités québécoises, présentement, sont en effet sous-financées, sont sous-performantes par rapport à ce qu'elles pourraient être. Puis que oui, en effet, on devrait augmenter les frais de scolarité. Toutefois, il faut que ça soit assorti d'un programme de prêts et bourses. Puis, oui, je pense qu'on doit augmenter les prêts de scolarité pour assurer la pérennité des universités.
Mais là, le prêt et bourse, c'est quand même un peu l'État qui intervient. Là, ici, on bannit en quelque sorte l'État. L'État, c'est mal.
Ben, en effet, non, on bannit pas l'État. Moi, je pense que ça fait partie du rôle fondamental de l'État de s'assurer que son peuple puisse avoir une éducation de qualité. Donc, dans ce sens-là, un programme de prêt et bourse n'est pas du tout contradictoire à la vision conservatrice.
Oh, il y a de nombreux kiosques. Les médias Choix FM, le Journal de Québec, mais aussi le Manning Center, le Fraser Institute. Les médias et les think tanks de droite ensemble, main dans la main. C'est beau de voir ça.
Ça vient?
Est-ce que t'es de droite?
On peut dire, oui.
Pourquoi t'es là, justement?
Je pense qu'il n'y a pas assez d'informations pour la RLQ encore qui était distribuée. Fait que je me demandais c'était quoi. Puis vu que j'ai beaucoup d'inclinations vers des partis de droite en Europe.
Puis là, tu parles justement des partis de droite en Europe. C'est quel parti de droite que tu t'inspires? Là, c'est quoi tes modèles en Europe?
Les sociodémocrates en Suède. On parle peut-être du Vlaams Belang aussi. Tous les partis un peu nationalistes, là, parce que pas vraiment le Front National aussi en France, le BNP, donc tous les partis vraiment qui sont nationalistes.
Et vous, est-ce que vous êtes militant politique? Est-ce que vous avez déjà milité ou sinon dans un parti ou une organisation politique?
Pour moi, présentement, il n'y a rien au Québec, puis je ne sais pas si le RLQ va devenir quelque chose, mais je ne me suis jamais impliqué.
Puis le Parti conservateur ne répond pas à tes interrogations?
Encore une fois, c'est des démagogues, donc il faut qu'ils vivent avec les sondages. Ils ont fait quelques bonnes décisions quand même, peut-être des meilleures décisions que le gouvernement libéral auparavant, mais il y a encore une zone qui est très grise pour les gens qui sont un peu nationalistes au Canada puis au Québec.
Puis, tu te qualifies de nationaliste?
Bien, je pense qu'effectivement, il faut quand même avoir une certaine opinion de son pays afin de pouvoir faire progresser les choses, puis d'être prospère, puis d'être content chez soi. Alors, je pense que s'il n'y a pas de nation, bien, il n'y a pas de pays. Hein? Alors, effectivement, je crois qu'il faut quand même être fier de ce qu'on est.
Tu verrais ça comment, l'immigration au Canada?
L'immigration, c'est un système qui est vraiment venu hors contrôle. Il n'y a absolument aucune justification pour les niveaux qu'on accepte. Ça fait seulement délayer un problème futur. Alors, on se dit, on va accepter... Le chiffre officiel, c'est qu'on veut 1% de la population. On accepte environ 0,8% présentement par année. Donc, on parle entre 240 et 400 000 immigrants par année. C'est absolument pas nécessaire pour l'économie du Canada. Si, effectivement, c'est nécessaire, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait un problème en boule de neige. Donc, cette année-ci, on doit en accepter. L'année prochaine, encore plus. Puis, si on étale ça sur une longue période, on va être rendu avec une population de 200, 300 millions, 1 milliard, pourquoi pas? Est-ce que c'est un problème qu'on fait juste mettre des pansements au lieu de régler? Alors, si c'est un problème de dépenses internes, on pourrait que ce problème-là, au lieu d'importer des paires de taxes, je crois pas que c'est bon pour le pays. Soit sur le plan économique, aussi sur la cohésion sociale, il y a beaucoup de fragmentation.
Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis un analyste pour un fournisseur de services de télécommunication.
Est-ce que vous êtes de droite?
Absolument.
Est-ce que vous êtes fier d'être de droite?
Oui.
Pourquoi
je suis fier d'être de droite? Tout simplement pour mettre en avant les responsabilités individuelles des gens. Cesser de toujours attendre après l'État qui prenne les décisions à notre place. C'est là que je suis. Principalement, c'est par la radio de Jeff Filion que j'ai été incité à venir ici. Et j'en ai entendu parler sur toutes les radios populaires de Québec, de toute façon. Je suis un auditeur de choix, puis du 93 à l'occasion aussi.
Et vous êtes abonné à Radio Pirate?
Oui, je suis un pirate depuis le début.
Donc vous êtes vraiment un acharné, un abonné de Jeff Filion, là?
Oui, je suis un fan depuis ses débuts en radio à Québec, oui.
C'est quoi vous préférez de plus là, dans ses idées?
Son discours politique.
C'est justement ces idées là, politiques que vous préférez?
Un plus petit gouvernement qui s'occupe le moins possible de nos vies et qui nous laisse le plus de liberté possible. Puis le choix le choix dans nos décisions personnelles.
Puis vous, est-ce que vous avez déjà milité dans un groupe politique ou un mouvement politique?
Non. Je suis un travailleur d'usine. C'est une des premières fois que je m'implique un peu.
Oui, vous êtes travailleur d'usine, mais justement, qu'est-ce qui fait qu'un travailleur d'usine comme vous, ce qu'on pourrait appeler un col rouge, vienne ici au Réseau Liberté Québec, qui est un mouvement de droite? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici?
Ah, l'envie de faire quelque chose, tout simplement. J'ai voté ADQ les dernières au provincial, puis l'autre avant, puis je vote conservateur au fédéral.
Oh là là, que ça faisait du bien aux oreilles, ça, le Réseau Liberté Québec. Et oui, vous êtes de retour à CKIA 88.3, c'est Voix de fait. Et là, peut-être qu'on pourrait faire parler tous ensemble un peu de nos impressions sur le lancement, dans le fond, du réseau. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que, bon, Toi-même, Stéphane, t'en as fait des vox pop, t'as rencontré les gens, moi aussi, je t'allais les rencontrer. Mm-hmm. Il y a une chose, il y a un truc qui est évident dans toutes les rencontres qu'on a fait, c'est que c'est tous des gens qui n'ont jamais milité. Ils sont jamais intéressés à des choses comme la marche mondiale des femmes qui réclame plus de droits pour les femmes. Ils ne se sont jamais intéressés pour aucun mouvement politique, jamais, à part pour là, les idées qui avancent, le réseau Liberté Québec, des idées de droite.
Mm-hmm. Ben, en même temps, moi, je trouve que ça, c'est plutôt bien, finalement, d'arriver à faire en sorte que des gens qui ne s'intéressaient pas à la politique en parlent. Par contre, ce qui est vraiment... moi, je pense qu'il faut mettre quand même les choses en perspective. Parce que oui, dans l'assistance, tu avais plein de gens qui n'avaient jamais milité, qui n'étaient pas des activistes. Mais par contre, dans les organisateurs, eux, c'est tous des activistes
absolument.
De parti. Anciens membres du Parti conservateur, membres actifs ou membres démissionnaires de la DQ. Il y avait pas mal de politiciens aussi, comme tu l'as mentionné dans ton entrevue. Donc, c'est aussi des gens qui ont beaucoup d'expérience, de militance, etc., qui ont organisé tout ça.
Puis c'est d'ailleurs le bémol qu'on pourrait dire, c'est quand Joanne Marcotte dit que c'est un mouvement grassroots, ben là, c'est un mouvement d'habitude... Grassroots, ça veut dire citoyen, en tout cas. C'est louche, tu sais. Ça marche pas du tout, leur affaire.
Ben, en fait, je trouve que ça sortait assez bien dans ton entrevue, là, quand tu disais que tu demandais aux gens d'où leur venaient ces idées-là. Puis tous, pratiquement, ils disaient, ben, je lis le Journal de Québec, moi j'écoute Choix FM, moi, j'écoute FM 93, j'écoute Jeff Fillion, Sylvain Bouchard.
Tous ces médias que la droite n'est pas représentée, là où la droite est marginalisée.
Oui, exactement. Eux, ils disent qu'ils défient l'establishment, mais en fait, quand tu regardes sur ce qui s'est passé au cours des 15-20 dernières années, ben, on est en train d'en payer le prix. Il y a une grosse concentration de la presse dans tous les domaines, aussi bien au niveau de l'offre en télévision, en radio dans la région, il n'y a plus quoi que Corus, Astral, grosso modo Genex qui détiennent toutes les stations, toutes des stations commerciales. Très peu de stations communautaires, sauf CKIA, CKRL. Tu regardes au niveau des journaux, c'est pareil. Le Journal de Québec, le Journal de Montréal, c'est détenu par les mêmes personnes. La presse, le Soleil, les mêmes personnes, etc., etc. Mm-hmm. Et c'est des gens qu'on retrouve dans tous ces médias-là. Donc c'est pas pour rien là ce qu'on est en train de faire. C'est le fruit d'un long effort pour installer au Québec ou dans la région de Québec une grosse propagande de droite. Et ce qu'on est en train de regarder, c'est les gens qui récoltent les fruits politiques de ça. D'anciens militants de la DQ puis du Parti conservateur qui organisent un mouvement pour essayer d'aller récupérer tous ces gens finalement qui ont été mobilisés par des animateurs de droite de
façon
générale.
Puis rappelons simplement que la femme de Desmarais, Power Corporation, donc la presse et tout ça, est membre du CA de l'Institut économique de Montréal. Donc c'est vraiment les médias et la droite politique et économique, là, c'est main dans la main. Là.
Mm-hmm. C'est ça qui est bidonnant quand tu regardes qui était présent au RLQ. Il y avait un stand du Journal de Québec. Faut le faire. Quoi. C'est
plus que Québec ça, tu mettais la pied dans l'hôtel gouverneur, il tendait un Journal de Québec.
Il tendait un Journal de Québec.
Il y avait
Québec,
un autre kiosque du Journal de Québec. Tu pouvais t'inscrire au Journal de Québec. Déjà, c'était vraiment c'était incroyable. La présence du Journal de Québec était hallucinante.
Oui. Et puis, tu vois, justement, Éric Duhaime, il est chroniqueur dans ce journal-là. Lui, d'ailleurs, il fait aussi partie du National Post. Ce qu'il faut savoir, c'est que Québécois, ils impriment notamment le journal de l'Institut Fraser. L'Institut Fraser, c'est un gros think tank néolibéral qui est basé, je pense, dans la Colombie-Britannique, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et récemment, il a pris un virage encore plus à droite en nommant quelqu'un qui est assez proche du Canadian Christian College. Puis, donc, l'Institut Fraser, il publie un journal qui est Perspective, et c'est Québécois qui publie son journal. Donc, tu vois, Québécois est vraiment dans les réseaux conservateurs, exactement comme le Manning Center aussi, l'autre think tank qui était présent. C'est pareil, donc ça a été fondé par Manning, un conservateur patenté, vraiment bien établi. Et Duhaime, par exemple, travaille bien avec ces gens-là. Quoi. Il était, par exemple, conseiller spécial de Manning, conseiller spécial du Parti conservateur. Il n'y a pas longtemps, on l'a envoyé en Irak, etc. C'est pas tant que ça un mouvement grassroots. Moi, j'y vois beaucoup plus un effort très concerté de la part de différents acteurs de droite pour essayer de radicaliser l'opinion publique, puis d'essayer d'empocher finalement ce butin politique.
Puis pour les médias, dans le fond, on voit que ce travail-là, cette espèce de diffusion des idées de droite, ça finit par entrer dans la tête des gens, puis ils finissent finalement par répéter, dans le fond, les mêmes discours qu'on entend souvent. D'ailleurs, j'ai un extrait, justement, qui est assez éloquent sur la régurgitation, dans le fond, du discours qu'on entend souvent.
Je pense que le problème, c'est qu'on a développé un réflexe depuis plusieurs années. On a un problème, on se tourne vers le gouvernement. Tandis que moi, je crois beaucoup à la responsabilisation des institutions.
Donc, le gouvernement est trop présent, il faut se recentrer sur l'individu. C'est le genre de discours qu'on entend couramment, là, on écoute un temps soit peu les radios poubelles à Québec. Là, c'est vraiment, moi, c'est ça que j'ai senti en parlant aux gens qui étaient là-bas, c'est vraiment l'effet média, l'effet de recracher le discours qui nous matraque à tour de bras.
Oui, ouais, effectivement, c'est vraiment une propagande qui est bien orchestrée. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est... Quand même, il faut replacer les choses dans leur contexte. On est en train de vivre depuis les années 80-90 dans un contexte de mondialisation économique. Typiquement, une mondialisation économique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États ont de moins en moins de pouvoir, que ce sont des corporations privées qui en ont de plus en plus. C'est elles qui définissent les règles du commerce au niveau de l'OMC, c'est elles qui définissent les relations internationales au niveau du FMI, c'est elles qui sont capables d'engager des politiques, d'engager, de faire du lobbying, etc., faire baisser toutes les normes.
Ils peuvent poursuivre l'État.
Ils peuvent poursuivre l'État, ils ont des accords commerciaux, la NAFTA, ils ont des accords de libre-échange, ils soumettent des pays entiers. Et ce... L'ennemi qui est identifié par ce réseau-là, le réseau Liberté Québec, c'est l'État, alors qu'il est en pleine perte de vitesse. C'est la seule chose qui nous reste pour défendre des droits collectifs. Hein? Comment est-ce qu'ils pensent pouvoir se protéger finalement de toutes les tyrannies privées qu'on vient de nommer là dans la mondialisation? C'est ça qui est vraiment contradictoire.
Ça, c'est le genre de questions que tu vas leur demander, puis ils oublient ça, ils sont incapables de répondre. Parce que au-delà de leur discours qui a l'air cohérent, on les entend, ils n'ont pas l'air de complètement de freak, bizarre, difficile à suivre. Vraiment, ils sont capables de répondre à tes questions. Mais à partir du moment qu'on commence à leur demander justement de peut-être les solutions qu'ils préconiseraient ou de creuser un peu plus profondément, oublie ça, le discours devient complètement incohérent.
Mais c'est même plus que ça. Le discours, en fait, je pense qu'il faut toujours regarder ça avec des pincettes. Là, et pas essayer forcément de donner du sens à ce qu'on n'a pas, là, parce que tu vas voir qu'il y a effectivement beaucoup de contradictions. Mais je voudrais juste qu'on prenne un petit point, là, le climato-scepticisme. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Personne n'avait jamais entendu parler d'une doctrine comme ça. Là. T'imagines, t'as un problème scientifique. Toi, qu'est-ce que tu fais? T'arrives avec un point de vue politique pour dire, ah bon, bah, là, ce problème scientifique, finalement, il n'y en a pas, parce que moi, je te dis que le climat, c'est pas
ça fait
problème.
Maintenant deux types d'organisations qui s'objectent aux scientifiques, la religion
et les
politiques vaguement. Uh-huh. En fait, c'est des entreprises derrière ça.
Ben oui, c'est des entreprises. Et tu regardes justement, qui est-ce qui promeut le climato-scepticisme? C'est l'Institut Fraser. Ils ont publié, il n'y a pas trop longtemps encore, des entrevues dans leur journal Perspective avec Éric Bédard, là, qui est directeur de, je ne sais plus trop quoi, Athena Marketing Energy. Il disait qu'il fallait moins taxer les gazières, il fallait moins taxer les entreprises énergétiques. Et c'est exactement le même argument que toutes les compagnies pétrolières, qu'elles soient américaines, anglaises, etc. Toutes, même aux États-Unis, ont trouvé des spots publicitaires sur la télé pour dire il n'y a pas de réchauffement climatique, le CO2 ça nourrit les plantes, c'est pas un problème, c'est pas un gaz à effet de serre. Ils sont vraiment balèzes. Non, mais et en fait, on voit bien que c'est ces intérêts-là qui sont défendus. C'est les intérêts des grandes corporations. Alors après, on peut toujours te parler de plus de liberté, etc. C'est des gens qui eux-mêmes sont même pas libres et savent même pas nommer la main de leur maître.
Exactement. Puis là, on parle de médias traditionnels qui font vraiment un gros effort pour indoctriner les gens. Mais il y a aussi la présence des médias sociaux. Là, par exemple, au discours d'ouverture, on disait qu'il y avait un grand espace à Twitter. Donc, apparemment, que ça tweetait beaucoup parmi les tweets qu'il y avait là. Mais justement, on a peut-être un extrait justement à passer qui démontre ça. Là.
Quel endroit vous avez été au courant du RLQ, de la connaissance? Comment vous avez pu connaître?
C'est vraiment sur Internet, sur Twitter.
Sur Internet? Twitter?
Je suis un article sur Twitter, par personnellement, j'en ai pu parler de ça. Je suis trop là-dessus. Donc, dès que j'ai su le plan rituel ou le marque sur Twitter, donc immédiatement, dès le lancement, j'ai su c'était quoi, j'ai vu le groupe professionnel avant, donc je savais un peu si ça en venait.
Êtes-vous de la région de Québec?
Non.
Non?
Lui, il est de la région de Longueuil, moi, je suis de la région de Montréal.
D'accord.
Donc l'importance quand même des médias sociaux est aussi importante en dehors des médias traditionnels. On voit vraiment qu'il y a une émergence de ça. On pense souvent aussi des blogging stories, etc.
Effectivement, ouais, c'est bien le phénomène. D'ailleurs, il y en avait plusieurs. Hein. Il y avait d'autres personnes qui bloguent, par exemple, sur le blog Radical, le Québécois Libre, etc. Il y a pas mal de blogs de droite qui se sont multipliés ces derniers temps. En fait, on retrouve un parallèle assez fort avec ce qui s'est passé dans les années 70, ce qu'on a appelé le Culture War aux États-Unis, c'est-à-dire une bataille culturelle de faire en sorte que de nouvelles idées... Ben, nouvelles en même temps, faut quand même relativiser.
Ouais, parce qu'en fait, ça remonte à Duplessis, là.
Ben oui, ouais, c'est ça, ils ont pris exemple sur Duplessis, tu vois, leur lien avec la droite religieuse aussi, elle est plus ou moins claire, on va
puis
sûrement Frédéric revenir là-dessus.
Il dit carrément que l'époque de Duplessis, c'était un âge d'or du Québec.
Oui, oui, c'est le propos de Guillaume Leduc.
C'est ça qui a permis la révolution tranquille, man.
Ouais, c'est ça, mais la révolution tranquille, c'est un grand désastre.
Mais c'est vrai qu'on va voir en fait qu'il y aura beaucoup de contradictions parce que pour le moment ils ont du mal à pointer une plateforme qui soit raisonnable en dehors de grands slogans, en dehors d'un effet de masse, une campagne un peu virale là comme ils disent de marketing pour essayer de vendre leurs idées. Pour le moment il y a pas grand chose qui est avancé, mais tu vas aller voir les différentes tendances là. Le petit monsieur là qui aimait bien le Front National, tu vas en voir comme Jacques Brassard qui sont des catholiques sionistes acharnés qui veulent défendre le droit de vie, etc. Tu vas aller voir toutes les tendances de la droite, puis on va voir ce qu'ils seront capables de faire avec ça véritablement en tant que plateforme puis des politiques cohérentes. Là.
C'est ça, on va voir ça dans les prochaines semaines, on va surveiller ça. Est-ce que ça va être un pétard mouillé ou est-ce que ça va vraiment prendre de l'expansion? Ça va être à voir.
Ouais.
Donc là, on va écouter maintenant une entrevue qui a été faite justement avec...
On va aller en musique avant, on va couper ça un petit peu. On va écouter une belle petite pièce de Zebda.
c'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. S'il n'y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres et beau défendre si joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai je pénalise ceux qui flinguent les mormons qui ont pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse, je suis un érudit et je vous dis,
je suis serbo-croate et musulman, voilà le hic. En fait, polonais, républicain et laïque. Et si certains regrettent de pas être noir de peau, je n'ai qu'une réponse, les gars, vous avez du faux.
Si la peur est un bras qui nous soulève, elle nous décime, j'en ai peur pour la nuit des temps.
Elle aime Noah mais faut qu'il gagne des tournois. Elle aime Bolly mais a jamais rien aboli. Elle aime Noah mais faut qu'il gagne des tournois. Elle aime Bolly mais a jamais rien aboli.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas? À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur,
je me présente, voici.
Je m'appelle Larry Mamadou Juan et faites place. Guido Henri, Gino Ali, je ne suis pas de glace. Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre. J'ai épuisé un combat, la bonne affaire, j'en ai bavé de la peur que j'ai lue dans les yeux de ceux qui ont trois fois rien qui le croyaient précieux.
Quiconque suit un peu l'actualité internationale a dû remarquer que ça commence à chauffer sérieusement en France. Là-bas comme ici, le peuple est aux prises avec des plans d'austérité pour faire payer la crise aux classes populaires. En France, la goutte qui a fait déborder le vase est une réforme des retraites qui vise à allonger le temps de travail de 2 ans. Et on a avec nous Théo, un camarade d'Alternative Libertaire, pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, t'es syndicaliste, je crois, puis présenter brièvement Alternative Libertaire à nos auditeurs?
Ouais, tout à fait. Donc moi, je suis Théo. Je suis syndicaliste donc dans l'éducation nationale, dans un syndicat qui s'appelle Sud Éducation. Je suis également militant d'Alternative Libertaire. Donc Alternative Libertaire, c'est une organisation communiste libertaire, en gros anticapitaliste et autogestionnaire, révolutionnaire. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui a mis le feu aux poudres en France? C'est quoi le projet de réforme des retraites? Ici, dans les médias, on nous dit juste que les Français ils veulent pas travailler jusqu'à 62 ans, ce qui fait rigoler un peu tout le monde parce que l'âge de retraite ici est un peu plus élevé que ça. J'imagine que c'est plus complexe que ça.
Oui, c'est plus compliqué que ça. En fait, la question, c'est simplement que jusqu'ici, l'âge de départ légal à la retraite, il était de 60 ans. Le gouvernement a décidé donc de passer cet âge-là à 62 ans et effectivement ça a servi de déclencheur, mais c'est pas que ça. C'est qu'en fait depuis la crise financière, on voit un gouvernement qui est complètement au service des riches, une bourgeoisie qui est à l'affût sur tout ce qui peut voler aux classes populaires, et dans ce cadre-là la loi sur les retraites, elle a apparu comme une provocation supplémentaire et comme une provocation de trop. Et c'est pour ça que ça a donné le feu aux poudres. C'est simplement, finalement, en creux, derrière la question de la retraite à 62 ans, en creux, ce qu'il y a, c'est la question de la redistribution des richesses, du partage des richesses et d'un autre partage des richesses où ce ne sont pas toujours les plus riches qui se servent, mais effectivement que les salariés puissent récupérer un peu du produit de leur travail.
Juste pour préciser, là, les gens, ils partent pas à la retraite à 60 ans de toute façon.
Oui, de toute façon, hein, de toute façon, en France, les gens ne partent pas à la retraite à taux plein, c'est-à-dire avec leur retraite intégrale à 60 ans, parce qu'il faut avoir cotisé de toute façon un certain nombre d'annuités, donc 42 ans, et ces 42 annuités, si on les a pas, on n'a pas une retraite à taux plein. Donc, de toute façon, aujourd'hui, et en plus, il y a plus grave que ça, il y a même plein il y a plusieurs milliers de salariés qui n'arrivent même pas à ces 60 ans parce qu'ils sont mis au chômage avant ou qui sont tout simplement en pré-retraite parce qu'on leur dit que il n'y a plus assez de travail pour eux, alors que bon voilà, hein, c'est pas vrai du tout, bien sûr.
Donc dans les faits, ce que ça fait, c'est que ces gens-là n'ont jamais droit à une retraite pleine et entière.
Non, voilà, pas le droit à une retraite pleine et entière. Donc pour nous, c'est simplement voilà, on peut pas accepter un recul social de cette ampleur-là, alors qu'aujourd'hui en France, de l'argent, il y en a, hein. Les entreprises françaises du CAC 40, elles ont fait 212 milliards d'euros de bénéfices.
Excuse-moi, c'est quoi le CAC 40?
Le CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises.
Ok, d'accord.
Voilà, et elles ont fait 212 milliards d'euros de bénéfices entre 2007 et 2009, alors que c'était les 3 ans soi-disant de crise. Hein. Donc bon, de l'argent, il y en a. Qui plus est, nous, on a aussi en France donc une politique de fiscale, donc des impôts, vraiment en faveur des riches. C'est-à-dire que on empêche finalement les riches de payer des impôts aujourd'hui. On leur fait même des cadeaux. Donc c'est le fameux bouclier fiscal donc que le président Sarkozy a fait voter. Et c'est quand même près de 3 milliards par an, ce bouclier fiscal. C'est de l'argent qu'on donne aux riches, qu'on rend aux riches.
Et on va aller en chercher un peu plus dans les poches des classes populaires, finalement.
Eh bah bien oui, au final, par contre, tout cet argent qu'on rend, c'est de l'argent en moins pour les services publics, pour les hôpitaux, pour l'éducation, pour tout ça. Hein, voilà, donc là, il y a... Et puis, maintenant, pour nos retraites aussi. Donc, pour nous, il y a tout simplement... finalement, c'est une question de classe. Hein, c'est la classe sociale qui est la nôtre. Elle est en train de se faire attaquer vigoureusement par la classe capitaliste. Et il n'est pas acceptable qu'on puisse laisser passer ça.
Parle-nous donc un peu de la lutte, là. Comment ça s'est développé? Est-ce que vous aviez vu ça venir, ce qui se passe en ce moment?
Et pour être très franc, y compris chez les syndicalistes, on n'avait pas mesuré à quel point cette question-là des retraites pouvait être mobilisatrice. Bon, je pense qu'il y a un climat, hein. Il y a eu ce qui s'est passé en Grèce, il y a eu la crise, il y a le fait que les salaires sont de plus en plus réduits. Donc tout ça, ça a servi de déclencheur. Mais c'est vrai que on n'imaginait pas ça. On n'imaginait pas des millions et des millions de salariés qui se mettraient en grève, qui manifesterait comme ça, puisque tout a commencé finalement à l'été dernier, hein. La première grande manifestation en France, c'était le 24 juin, et on avait déjà 1,5 million de manifestants dans les rues. Aujourd'hui, on ne fait pas une seule grande manifestation en France sans 3 millions de manifestants dans les rues.
Sur combien de salariés à peu près?
Alors, le nombre de salariés en France, c'est de l'ordre de d'une 30 millions, quoi, en gros.
Ok, donc c'est quand même une personne sur 10.
Ah oui, c'est très très important. Hein. On est dans un mouvement de fond, dans un vrai mouvement de colère général. Et c'est ce qui fait que le pouvoir a du mal à faire comme si ça n'existait plus. Le président Sarkozy avait dit en France, quand il y a une grève aujourd'hui, plus personne ne le remarque. Il avait dit ça il y a une année. Quand on voit aujourd'hui les 3 millions de manifestants que les syndicats mettent dans la rue à chaque fois qu'ils les appellent à y descendre, on peut difficilement dire qu'on ne voit plus les grévistes en France.
Comment ça s'est développé un peu là? Si je comprends bien, vous n'êtes pas en grève générale, mais c'est tout comme.
Alors, on n'est pas en grève générale dans la mesure où de très nombreux secteurs d'activité continuent à être à travailler. Hein. On a des secteurs qui sont très fortement engagés dans la grève reconductible, c'est-à-dire qui votent chaque jour la grève par période de 24 heures. Donc c'est le cas à la SNCF, donc c'est les trains. C'est le cas également dans les raffineries, donc les raffineries qui nous permettent d'avoir de l'essence, qui là depuis peu, il y a 3 raffineries qui ont repris le travail sur 12, mais il y a encore 2-3 jours, c'était les 12 raffineries françaises qui étaient en grève. Ça a créé des pénuries de carburant très importantes, ça continue d'en créer, et de toute façon, la majorité des raffineries françaises étant encore en grève, on est dans une situation où effectivement l'économie du pays est réellement gelé, endormi par cette grève. Alors c'est une grève générale sans en être une, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a l'esprit de la grève générale. Qu'est-ce que c'est que la grève générale? C'est quand les travailleurs ils décident de croiser les bras, et que lorsqu'ils croisent les bras, ils montrent bien que c'est eux qui produisent des richesses, et que s'ils ne le font pas, eh ben la société ne marche pas, hein. Donc c'est bien eux qui font tourner la société. Donc on est vraiment dans cette dimension-là, et en même temps, il y a encore des réserves très importantes chez les travailleurs, les travailleuses françaises, qui peuvent rentrer dans l'action et permettre d'aboutir vers un mouvement encore plus fort.
Et là, la lutte, là, comme on la voit en ce moment, ça a l'air de dépasser le cadre plutôt traditionnel des manifestations. Ça prend des formes inédites ou presque. Est-ce que c'est nouveau l'action directe dans ce genre de lutte-là qui est plus politique, là?
Alors, ce qui est nouveau, c'est effectivement le recours à... Alors, en France, on appelle ça les blocages, y compris dans la presse, c'est mentionné comme tel. Ils disent donc c'est la stratégie du blocage, c'est les blocages.
Ouais, ça, c'est quelque chose qui est un peu particulier, parce que vu d'ici, on comprend pas trop, parce qu'ici, une grève, ça implique nécessairement un blocage, une ligne de piquetage, là.
Oui, alors nous, les grèves, si, elles bloquent la production là dans les secteurs où ils sont. Mais là, la nouveauté, c'est qu'on a des, comment dire, comme des commandos de grévistes, mais alors des commandos à 200, 300, 400 personnes, hein, qui vont aller bloquer un nœud routier, qui vont aller se mettre à un nœud routier, une route nationale, une grande route, qui vont s'installer là et bloquer le passage, donc la circulation, etc. Des grévistes, donc là encore 200, 300, qui vont aller bloquer un dépôt de carburant. C'est-à-dire que c'est pas les salariés du dépôt de carburant qui vont bloquer le site, c'est des salariés en grève d'autres secteurs. Et donc cette stratégie-là, c'est presque de la guérilla en fait, hein, que les grévistes français mettent en place. C'est effectivement quelque chose d'assez nouveau. Effectivement, c'est complètement dans la tradition de l'action directe. Nous, on en est très satisfaits. On espère qu'on pense qu'effectivement, c'est ces actions-là qui sont des actions de masse, hein. C'est pas des actions de quelques illuminés. C'est vraiment des actions qui sont portées par des grévistes par centaines, associées à un mouvement fort de grève, c'est-à-dire de cessation du travail collective et majoritaire dans des secteurs professionnels importants de l'économie française. C'est des choses qui peuvent faire basculer et nous faire finalement gagner, remporter une victoire sociale.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
Dans la rue que ça se passe, dans la rue d'à côté, c'est dans la rue que ça se passe.
retour à Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. On est toujours en entrevue avec Théo, militant syndicaliste d'Alternative Libertaire. Là, en ce moment, on se demande la mobilisation en est où. Si on regarde les journaux, Sarkozy a l'air de tenir son bout. Corrige-moi si je me trompe, mais la loi a été votée la semaine dernière. C'est quoi là, les prochaines étapes pour élargir la mobilisation? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on s'en va vers un essoufflement inéluctable?
Alors, ben... On va vers... Il y a encore des dates de manifestation. Hein. Il y a une date de manifestation jeudi, là, jeudi 28 octobre. Donc, on espère encore réunir plusieurs millions de salariés dans les rues françaises. Alors, par contre, c'est vrai que la mobilisation marque un peu le pas, parce qu'on est dans une période aussi de vacances scolaires et qu'on avait eu le renfort, notamment dans la mobilisation de la jeunesse, donc des lycéens et des étudiants, et que ça, là, en l'occurrence, pendant les vacances, bon, ben, ils sont moins disponibles... les jeunes parce qu'ils sont avec leurs parents, etc., alors que d'habitude ils sont en cours et ils font de la grève des cours en fait. Donc là oui, on espère continuer à réussir à mobiliser. Maintenant après, la loi, qu'elle soit votée ou pas, si le mouvement continue à se massifier, si le mouvement continue sur ses actions radicales, ses blocages, etc., on aura de toute façon un rapport de force qui obligera le gouvernement à revenir sur sa loi. Nous, de toute façon, notre objectif, c'est bien de construire un mouvement de grève reconductible et général pour gagner et pas pour témoigner.
D'accord. Et là, en ce moment, Alternative Libertaire, c'est quoi justement les alternatives que vous mettez de l'avant et puis quelle réception ça a?
Alors nous, moi là, je te parlais surtout au niveau syndical, puisque oui. Pour beaucoup de militants d'Alternative Libertaire, on est des militants très investis dans le syndicalisme français, souvent dans les syndicats sud, mais également dans le principal syndicat français qui est la CGT. Donc déjà, nous, c'est d'abord ça, hein, c'est de développer les grèves, les coordonner, les impulser là où elles n'existent pas encore, et puis ensuite, on fait un travail de propagande, donc en faveur de l'auto-organisation de la lutte, en faveur de la grève générale et en faveur effectivement des stratégies d'action directe, de blocage. On dit que c'est effectivement ça qu'il faut faire, quoi. Voilà.
Et c'est bien reçu?
Oui, alors très très bien reçu, hein, dans les manifestations, lorsque les camarades diffusent les tracts d'Alternative Libertaire, les manifestants, on est complètement au diapason, hein, on est vraiment sur la même longueur d'onde que la majorité des gens qui manifestent.
Ok, si ça dérange pas, j'aurais quelques questions qui ont été suggérées par des auditeurs. Ben, d'abord, il y avait la question, on voit, il y a des secteurs qui sont en pointe et il y en a d'autres un peu moins, et puis les gens se demandaient, c'est qui résiste à l'élargissement du front? Qui n'ose pas embarquer?
Alors, donc, si j'ai bien compris, la question, c'est de savoir quels secteurs sont pas vraiment dans l'action et pourquoi ils rejoignent pas l'action.
Oui.
Oui. Alors, les secteurs qui rejoignent pas l'action, le problème, c'est que il y a quelque chose en France qui tient aussi à ce qu'on a appelé la grève par procuration. Ça s'était prévu donc lors d'un grand mouvement social français, celui de novembre-décembre 1995, qui avait relancé un cycle de lutte, un cycle de contestation. Et lors de ce grand mouvement-là, on avait dit que les cheminots faisaient grève, donc c'est les conducteurs de train, faisaient grève par procuration pour les autres, en fait. Et là, on est un petit peu dans cette dimension-là. Alors, les syndicalistes de lutte, hein, essayent d'élargir la grève, essayent de faire rentrer, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs où c'est plus timide. Hein. Moi, pour ma part, hein, je travaille dans l'éducation nationale, par exemple, dans le secteur de l'éducation, il y a des endroits où il y a de la grève reconductible, hein, il y a des endroits où il y a des assemblées générales de grévistes dans des grandes agglomérations urbaines où ils se retrouvent à 200 et ils votent la grève reconductible, mais c'est vrai que ça représente pas la majorité de la profession. On n'est pas dans la situation, ou même une portion significative de la profession, comme c'est le cas pour les cheminots et bien sûr comme c'est le cas pour les travailleurs des raffineries françaises qui là sont quasiment ultra majoritairement en grève, quoi.
Justement, on entend beaucoup parler de l'énergie, du transport, des écoles, mais est-ce que les grèves touchent d'autres secteurs comme la métallurgie, l'industrie manufacturière, l'automobile, la construction?
On a alors Pour ce qui est du privé et de ce que nous on appelle le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises effectivement industrielles, etc., toutes ces entreprises-là se joignent en fait à la mobilisation, mais plutôt sur les journées de grève ponctuelles, c'est-à-dire que sur toutes les journées, ce qu'on appelle les journées d'action, donc là, la prochaine c'est le 28 octobre, celle d'avant c'était le 19 octobre, avant on en avait une le 12 octobre, ensuite le 23 septembre, le 7 septembre, et sur chacune de ces grandes journées de manifestation, on a des salariés, des industriels, qui se mettent en grève, parfois quelques heures, parfois la journée entière, pour venir manifester et puis pour apporter leur soutien au mouvement de grève reconductible dans les autres secteurs. Et on a aussi des salariés d'industrie qui participent aux actions de blocage, hein, sur les journées de grève. Ils ont leur journée, ils sont grévistes, et plutôt que de faire une grève où ils vont juste manifester, ils font une grève active où ils vont effectivement mener des actions coup de poing, comme celles qu'on connaît avec les blocages de dépôts de carburant, par exemple.
Dans le même ordre d'idée, il y a eu l'an dernier, je crois, un grand mouvement de sans-papiers, de grève de sans-papiers, et il y avait quelqu'un qui se demandait si les sans-papiers participaient à la lutte actuellement.
Alors oui, on a dans les cortèges, c'était notamment, c'était très localisé, la grève des sans-papiers, hein, c'était quasi essentiellement à Paris, hein, que c'était tenu les piquets de grève, et sur les cortèges parisiens, notamment de Solidaires ou de la CGT, on a des délégations de grévistes sans-papiers qui sont encore, hein, pour certains dans l'action, puisque pour certains la régularisation tarde à arriver, et donc on essaye de maintenir avec ces grévistes-là le rapport de force.
Deux petites dernières questions. On se demandait, c'est quoi la trame sonore de la révolte? Qu'est-ce que vous écoutez dans les manifs?
La bande son de la grève. Écoute, on écoute beaucoup de choses. Moi, je peux te parler ça dépend des cortèges. Il y a des traditionnels pastiches, c'est-à-dire qui reprennent des chansons du répertoire classique de la chanson française en les détournant. Il était un petit navire, des choses comme ça, qui deviennent il était un petit ministre, etc. Et puis, par contre, on peut compter aussi sur une scène de musique alternative en France. Je pense au ministère des Affaires populaires, je pense à Kenny Arcana, je pense à ces gens-là qui produisent des la compagnie Joli Môme aussi, qui est une compagnie de théâtre engagée, et qui produisent des chansons presque faites pour les manifestations, et qui et donc qu'on diffuse en musique. Et puis après, sinon, on est aussi on aime beaucoup aussi gueuler des slogans, donc
oui, la bande évidemment.
Elle est aussi artisanale.
Et finalement, c'est bizarre un peu, mais on en a entendu parler ici pour une raison qui m'échappe. Il y a des personnalités qui vous appuient. On a entendu parler, entre autres, d'une déclaration de Bruce Willis. Est-ce que ça a un impact, ça, quand il y a des gens comme ça qui sortent pour...
Alors moi, je savais pas du tout que Bruce Willis s'était déclaré. Ça a pas plus d'impact que ça. Je pense que là, pour ce qui est des la mobilisation telle qu'elle se construit, elle se construit pas autour d'une personnalité ou par rapport en référence à des grands leaders charismatiques. Elle se construit vraiment dans l'action gréviste quotidienne et dans le fait de se retrouver entre grévistes en assemblée générale quotidienne. Et bien sûr, on est attentif aux déclarations des uns et des autres, hein, notamment des grands leaders syndicaux français, hein, par exemple Bernard Thibault pour la CGT. Et puis des fois, on est aussi très critique vis-à-vis de ce que nous disent ces grands leaders. Mais ce qui compte, c'est vraiment la manière dont les salariés sont en grève au quotidien chaque jour, parce que finalement, ce qui est important, c'est de savoir comment son camarade qui fait le même métier que soi et qui perd le même salaire que soi, il va se déterminer.
D'accord. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que je ne sais pas, moi, une question que je ne t'aurais pas posée, quelque chose que tu voudrais rajouter?
Non, pas spécialement, hein, si ce n'est pour dire que y a quand même des choses très très importantes sur le poids de la jeunesse. Je pense que c'est quelque chose d'assez important qu'on a vécu dans ces dernières semaines. C'est effectivement l'entrée des lycéens, donc des jeunes entre 15 et 18 ans, et des étudiants là qui sont en train de prendre leur lait, donc ceux qui sont à l'université. Et ça, c'est quelque chose aussi qui casse un peu le discours gouvernemental, qui nous disait qu'ils faisaient une retraite pour l'avenir. l'avenir des jeunes, hein, pour que ils aient une réforme pour l'avenir des jeunes, pour que ces jeunes-là aient une retraite. Et en fait, les jeunes-là sont pas dupes, hein. Ils ont bien compris que si leurs aînés travaillent jusqu'à 62, voire 67 ans, comme le propose la réforme, eh ben, ils laisseront plus leur place au travail pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, du coup, ces jeunes-là, ils ont bien compris que la question du chômage des jeunes et de la retraite des aînés, elle était éminemment liée, et que c'est bien pour ça qu'ils rentrent dans l'action aujourd'hui.
Eh ben, oui, effectivement. Donc, ben, je te remercie beaucoup.
Ben, de rien.
Et bonne chance pour la suite.
Ouais, merci.
Salut.
Massacré à toute fourchette,
ouah ouah ouah, hey!
Donner pitié ses baskets,
ouah ouah ouah,
on l'a retrouvé dans le ruisseau,
ouah ouah ouah, hey!
Enculé par une pompe à vélo,
ouah ouah ouah,
c'est la jungle, on a tous crevé, tous les bons comme le tour après, on enterre une vraie connerie, acclamé dans les pop 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 pop.
Et oui, vous êtes de retour à Sequoia 88.3, c'est l'émission Voix de fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit. Et puis, juste pour dire, pendant l'entrevue avec Théo d'Alternative Libertaire, on a entendu la pièce ça va aller dans la rue. C'est dans la rue que ça se passe, de la compagnie Joli Môme. Voilà, alors on s'en dirige maintenant justement vers l'actualité internationale.
C'est ça, c'est la Confédération générale des travailleurs d'Espagne qui condamne l'assassinat de Mariano Ferreira par des hommes armés des pistoleros de la bureaucratie syndicale argentine. Cet homme-là, il faisait partie d'une manifestation de travailleurs et travailleuses qui étaient des sous-traitants rejetés par le service ferroviaire et qui c'est ça, ben ils manifestaient dans le fond pour avoir des meilleures conditions de travail, puis les autres étaient rejetés par le service ferroviaire. Puis il y a un groupe armé qui est intervenu, qui avait été engagé par la bureaucratie syndicale du syndicat des cheminots, Union Ferroviaria, qui les autres étaient armés avec des armes à feu, qui ont blessé trois travailleurs et travailleuses, puis l'un d'entre eux, Mariano Ferreira, de 23 ans, qui est mort en entrant à l'hôpital à Argerich.
Ça, c'était en Argentine.
Oui, puis c'est pas la première fois que ça arrive, dans le fond, que le syndicat, il engage du monde pour tirer ses travailleurs. Ça fait quasiment penser aux paramilitaires en Colombie, finalement. Là, c'est le gouvernement qui engage des paramilitaires d'extrême droite pour faire la sale job. Donc, c'est Carlos Fuente Alba, un enseignant assassiné à Neuquén en 2007, ou Dario Santillana et Maximiliano Costetti, des militaires sociaux assassinés en 2002. C'est d'autres cas qui sont déjà arrivés.
Puis, il y a eu un syndicaliste argentin qui avait été tué par Coca aussi, qui avait été reconnu coupable, je pense. Je ne me souviens plus exactement quand, mais...
Ouais, okay. Coca, quelques années, partout.
Oui, en tous les cas, là, c'est explicite.
Particulièrement en Colombie.
C'est pas par obésité.
Ça, dans le cas de ce travailleur-là, ce bureau de crise syndicale de la CGT argentine, couvert par le gouvernement national, les hommes d'affaires qui assassinaient des militants qui luttent et s'organisent pour réclamer des meilleures conditions de travail. Puis c'est le communiqué se termine sur phrase quand même assez claire. Disons clairement les choses, d'un côté les travailleurs et les travailleuses, et de l'autre les assassins. Donc,
Ouais, ça va très bien.
Ouais.
C'est très mal réclamer les droits.
ouais, forcément.
Pour certaines personnes. C'est tout, Janine?
Oui.
Merci beaucoup. Donc, ça va être bientôt la fin de l'émission Voix de fait. Et puis, juste pour rappeler que vous pouvez réécouter les émissions, vous pouvez aussi voir d'autres informations sur le blog de Voix de fait. Voix de fait avec un X et un S, .blogspot.com. Sinon, vous étiez en compagnie de François,
Jenny
et Stéphane.
Et Farouk qui dit on a eu l'avant-dernière pièce, c'était Lapin Billy s'en va en guerre des Ludwig, les originaux. Et maintenant, on s'en va avec le 8-6 Crew qui s'appelle, avec sa pièce Répression.